Si vous cherchez à acheter une bouteille
dont vous serez fier,
venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
qui a de la personnalité,
à déguster à la bonne franquette.
Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. Lepetitballon.com, les vins sans baratin.
J'aime à dire, moi qui suis amateur d'art, de beaux objets, que le vin est la seule vraie machine à remonter le temps qui existe sur cette planète. La seule.
Un vin qui t'a donné envie de devenir sommelier.
À ouvrir pour le plaisir.
Quand des amis débarquent pour l'apéritif.
Une bouteille.
Que tu as eu du mal à servir.
À boire avec une soupe à l'oignon.
Qui t'a fait voyager dans le temps.
Un vin.
Pour accompagner le bœuf de Miyazaki.
Une vie, un destin. Des vins.
C'est divin du soir jusqu'au matin.
C'est divin.
David Biraud, donc chef sommelier, manager au restaurant Sur Mesure par Thierry Marx au Mandarin Oriental à Paris. J'ai surtout fait des concours de sommellerie parce que pour expliquer un petit peu plus précisément de quoi il en retourne au niveau de nos compétitions, ce n'est pas la compétition du meilleur dégustateur, c'est la compétition du meilleur sommelier. Ça nous permet en fait de mettre en avant tout ce qu'on fait au quotidien dans notre métier, toutes les tâches que l'on fait dans une salle de restaurant ou même en back-office. Et donc, ces concours m'ont permis de grandir. Donc, effectivement, j'ai obtenu le titre de meilleur jeune sommelier de France moins de 26 ans en 98. Ensuite, je suis devenu meilleur sommelier de France en 2002. Meilleur ouvrier de France, la catégorie en fait des MOF en 2004. Et ensuite, il me restait les concours internationaux. Et donc, au niveau de l'international, j'ai représenté à trois reprises la France au meilleur sommelier d'Europe, où j'ai obtenu deux médailles d'argent et une médaille de bronze, et puis quatre reprises pour le meilleur sommelier du monde, où là j'ai obtenu une médaille de bronze du meilleur sommelier du monde, ainsi qu'une médaille d'argent en 2016.
Un vin, une bouteille.
La première dont tu te souviennes.
La première dont tu te souviennes.
La première bouteille dont je me souviens est certainement la bouteille que j'ai tenue dans mes mains, qui était une bouteille de muscadet que mon papa achetait en vrac, qu'on mettait en bouteille et ensuite il mettait bien un bouchon liège. Et ma mission solennelle, c'était de tremper les étiquettes dans le lait et de coller les étiquettes sur la bouteille de muscadet et qui avait été ensuite authentifiée par l'appellation muscadet que mon papa mettait sur l'étiquette. Et je pense que c'est vraiment quand j'étais petit, ces premières bouteilles que j'ai eues entre les mains, parce que j'avais une tâche tout à fait simple, mais je me souviens très clairement dans mon esprit de mettre justement ces étiquettes collées par le lait, une tradition sur ces flacons. Je ne viens pas d'une région productrice de muscadet en fait, je viens de Vendée. Je suis né là-bas, toute ma famille réside toujours là-bas. Nous avons une appellation, les fiefs vendéens, qui se portent plutôt très bien, avec d'énormes progrès. Mais il faut avouer que quand j'étais jeune, il y a quelques années de cela, le premier vin que j'ai pu déguster, j'ai un souvenir très clair aussi, c'était un verre de muscadet. Pourquoi ? Parce que le muscadet faisait partie de la cave de mon papa.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a donné envie de devenir sommelier ?
Qui t'a donné envie de devenir sommelier ?
J'ai décidé de devenir sommelier quand j'ai terminé ma formation de sommellerie à Talence. Pourquoi ? Il fallait faire un choix. Soit retrouver mes premiers amours qui étaient la cuisine, parce que toute mon école hôtelière, je l'avais fait en cuisine. Donc pour moi, cuisiner, c'était, et d'ailleurs c'est toujours d'actualité, hein, parce que je cuisine pour la famille, c'est moi qui passe au fourneau constamment, parce que j'adore ça. Mais il fallait à un moment donné faire un choix, la cuisine ou la sommellerie. Et je pense que là, la décision a été mûrement réfléchie parce que la sommellerie me permettait d'être en contact avec les chefs de cuisine. La sommellerie me permettait d'être en contact avec les vignerons et la nature, ce que j'adore. Et ensuite, la sommellerie me permettait d'être en contact avec des clients comme vous, comme plein d'autres, pour pouvoir échanger, partager de ma passion et surtout transmettre. Parce que la transmission du savoir avec les clients, c'est une chose en sommellerie, mais la transmission du savoir avec ses collègues et avec ces jeunes que nous avons en formation, elle est aussi pour moi primordiale. Donc voilà, ce déclic, il a eu lieu en 94, à la mention sommellerie. Donc 94, voilà, j'avais 22 ans.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a fait voyager dans le temps.
Qui t'a fait voyager dans le temps.
Ça m'est arrivé plein de fois de voyager justement au travers du temps grâce au vin, mais il y a un souvenir absolument incroyable, moi, que j'ai eu. Et ça, ça restera gravé dans ma mémoire parce que je remercie très régulièrement l'ami, le monsieur qui nous a débouché cette bouteille. On était plusieurs. On était quelques collègues sommeliers et des éminents sommeliers autour de la table. C'est une bouteille de Latache 1942. Alors, Latache, c'est un grand cru de la région bourguignonne, de la Côte de Nuit. C'est un monopole du domaine de la Romanée-Conti parce que Latache et la Romanée-Conti, bah, c'est quelques, je dirais, mètres de distance, quelques pas dans le vignoble de distance. Et pourquoi Latache 42? Eh bien, il y a une raison très particulière. C'est que c'est un millésime qui a été vinifié en grande partie, c'est vrai, par les femmes et les enfants en 1942, parce que c'était une période quand même très instable au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est surtout une bouteille que j'ai gardée, parce que j'ai demandé à cet ami si je pouvais garder le flacon vide. Et il m'a dit, mais bien sûr, la bouteille, elle est quasiment translucide et légèrement bleutée. Donc, ça a été une bouteille, en fait, posée là, à un instant vraiment précis, et qui n'attendait que nos palais pour pouvoir se révéler. Le vin était mais incroyablement bon. Je n'avais jamais goûté de 42. Et donc, ce vin m'a fait prendre conscience que pendant une période d'instabilité et puis surtout de drame sur le plan mondial, parce que tout le monde, je pense, vivait avec cette incertitude de qu'allons-nous devenir, eh bien, il y a eu des personnes qui ont fait ce vin en se disant « ça fera plaisir » à des palais avertis ou alors des dégustateurs. Et donc, cette bouteille, pour moi, revêt d'une importance extrême dans mon vécu et surtout dans ma carrière de sommelier. Donc, Latache 42 reste un très grand souvenir. J'ai la bouteille vide et j'ai même le liège qui fermait cette bouteille. Tout était dans un état, mais absolument impeccable. Et ça, ça a été un très grand moment de dégustation.
Un vin, une bouteille.
À boire avec une soupe à l'oignon.
À boire avec une soupe à l'oignon.
La soupe gratinée à l'oignon n'est pas un plat des plus faciles. Et je peux en parler, mais de façon très juste et très précise. Pour la bonne et simple raison que mon chef Thierry Marx fait une gratinée à l'oignon revisitée qui est absolument exceptionnelle, mais vraiment. Et donc, il y a deux aspects dans la gratinée à l'oignon ou dans la soupe à l'oignon. C'est d'abord l'aspect sucré de l'oignon. Et ensuite, il y a l'aspect liquide, fluidité de par le potage. Même s'il y a un peu de consistance et un peu de croquant ou alors un peu de fondant ou un peu de pulpeux de par l'oignon qui a d'abord été caramélisé, qui a confituré et ensuite qui a été mouillé avec un... Souvent, moi j'aime bien faire la soupe à l'oignon à la maison avec un consommé de légumes qui vient compléter aussi l'oignon parce que Sa Majesté l'oignon a beaucoup de personnalité. Et donc, même en lui accompagnant, en mouillant justement l'oignon caramélisé avec un consommé de légumes, ça ne nuit pas du tout à ses saveurs et à son arôme, pas du tout. Et donc, nous servons très régulièrement ce plat qui est un des grands classiques de la cuisine de mon chef, Thierry Marx. Et donc, je vais peut-être vous surprendre, mais l'oignon sucré et puis la fluidité, eh bien, on est toujours à la recherche d'arômes, c'est vrai, un peu ranciaux, un peu fruits secs, noisettes torréfiées, un peu de l'amande grillée, tout en respectant aussi une certaine consistance dans le vin qui rappelle un peu la fluidité d'une soupe à l'oignon. Et je m'oriente très régulièrement hors de France pour aller sur l'île de Madère. Et nous adorons associer la soupe à l'oignon avec un Madère. Alors, Madère, il y a plusieurs niveaux de sucrosité dans Madère et il y a plusieurs aussi niveaux d'âge. Mais là, la plupart du temps, on essaie d'être soit 10 ans, soit 20 ans d'âge, parce que ça peut paraître ancien, mais pour l'île de Madère, c'est relativement jeune. Mais surtout, choisir le bon cépage. Nous, au restaurant sur mesure, nous aimons beaucoup associer la soupe à l'oignon avec un Madère, soit à base de Malvoisie, donc qui est le cépage le plus sucré, ou alors soit avec un Boal, qui est un cépage aussi assez reconnu sur l'île de Madère, et qui donne un style de demi-corps, mi-sucré, mi-acide, mi-consistant. On se retrouve avec, ne serait-ce que la couleur, qui est étrangement ressemblante avec une soupe à l'oignon qui a bien caramélisé. Mais surtout, le niveau d'acidité et l'enveloppe charnelle liée à cette légère sucrosité de cépage de Madère, ça se situe très bien à l'oignon.
Un vin, une bouteille.
Pour accompagner le bœuf de Miyazaki.
Pour accompagner le bœuf de Miyazaki.
Le bœuf de Miyazaki, c'est le bœuf Wagyu, donc ce fameux bœuf japonais extrêmement persillé. Un bœuf de texture plus que de goût, parce que ça fond dans la bouche. C'est un vrai petit moment de bonheur. C'est un petit bonbon salé, si je puis dire, qui attise la gourmandise. Donc, le bœuf de Miyazaki, chez nous, il est plutôt préparé ce qu'on appelle façon bœuf charbon. C'est-à-dire que la tranche de bœuf wagyu, elle est saisie très rapidement. Elle virevolte, elle gigote en fait sur le teppanyaki. Comme vous pouvez vous imaginer, des scènes assez comiques de certains films, entre autres avec Louis de Funès. Voilà. Vous imaginez donc la tranche de bœuf de Miyazaki là, qui gigote sur le teppanyaki. Et une fois qu'elle est à peine cuite, et puis surtout à température, on la roule et puis on la laque d'une préparation noir charbon pour que cela ressemble à un petit morceau de charbon. C'est une préparation donc avec de la purée de légumes, un peu d'aubergine grillée et puis surtout un petit soupçon de réglisse et d'épices. Donc en fait, quand on voit ce petit morceau, on a l'impression d'avoir un morceau qui est surcuit, voire même noir. Et donc là, sur ce plat, moi j'aime beaucoup accompagner certains pinots noirs. Pourquoi ? Parce que le bœuf de Miyazaki, c'est un bœuf riche. Donc il va falloir toujours, moi je trouve, lui mettre un accompagnant vin qui va réveiller en fait sa richesse, réveiller son niveau de gras. Et c'est pour ça que j'aime le pinot noir. Pourquoi ? Parce que le pinot noir, de par son acidité et sa fine trame tannique, va réveiller ce bœuf. Et surtout, la laque noire charbon que l'on a dessus rappelle étrangement les pinots noirs qui ont été élevés de façon très noble, très digne, très élégante dans les fûts de chêne, avec ce petit côté vanille, réglisse, épices douces. Donc, le bœuf de Miyazaki a besoin d'être réveillé. Il a besoin d'être justement poussé dans ses retranchements pour qu'il ne devienne pas un bœuf écœurant, pas du tout, mais qu'il soit un bœuf de texture aérienne, stimulé, si je puis dire, avec le pinot noir. Donc, j'aime beaucoup la Bourgogne, où même on a tendance à oublier deux zones productrices de pinot noir que j'affectionne beaucoup aussi en France, qui est la zone du Sancerrois. Et j'affectionne les pinots noirs de chez Vincent Pinard. Ils portent très bien son nom parce que ce sont des pinots noirs très aériens, très délicats, très ciselés, très dentelles, mais qui ont cette puissance justement nerveuse qui équilibre la richesse du bœuf de Miyazaki.
Un vin, une bouteille.
À associer à un plat du quotidien.
À associer avec un plat du quotidien.
Les accords du quotidien sont souvent les accords, c'est vrai, les plus simples et les plus évidents. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus trop se creuser la tête. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la quête perpétuelle, que ce soit à la maison ou alors même au restaurant, de faire l'accord, je dirais, le plus intellectuel possible. Pas du tout. À un moment donné, il y a aussi l'accord spontané. Et la plupart du temps, les accords spontanés fonctionnent aussi très bien. Donc, ça peut être, oui, on parlait du steak frites, mais le poulet rôti frites. Le poulet rôti frites, quand on regarde cette volaille bien dorée, avec la peau qui a caramélisé, qui casse à certains endroits, cette peau, elle est venue nourrir aussi une grande partie de la chair de la volaille, où il y a un côté plus sanguin, avec la cuisse, qui, moi, m'amène sur des syrahs très aériennes que l'on peut trouver, par exemple, sur la vallée du Rhône-Nord. Quand on est sur le blanc, qui lui aussi, eh bien, a trouvé ses lettres de noblesse avec un peu plus de fermeté, un peu plus de mâche, parce que c'est une partie un peu moins, je dirais, irriguée au niveau du sang dans la volaille, eh bien là, ça me fait penser, moi, au grand blanc de la vallée du Rhône, au grand blanc de la Bourgogne, au grand chenin blanc de la Loire. Donc, je pense qu'il y a des accords très simples qui s'opèrent à la maison et il ne faut surtout pas, en fait, que le cérébral remporte, je dirais, la bataille par rapport au plaisir. Ne regrettez surtout jamais le débouchage d'une bouteille. Il n'y a rien de pire pour moi que de se dire « mince, j'aurais pu attendre 10 ans » ou alors « mince, c'était peut-être pas la bonne bouteille qu'il fallait ». Et à la rigueur, si ce n'est pas la bonne bouteille qu'il fallait, vous remettez un bouchon dessus, vous la mettez surtout au frais, à l'obscurité, pour éviter que le vin ne s'oxyde de trop. On débouche un autre flacon avec lequel on aura peut-être un peu plus de plaisir. Et puis, le flacon qui a été mis un tout petit peu sur la voie annexe sur une journée, eh bien, demain, il vous procurera aussi un très bon plaisir. Donc, ne pas trop attendre, soit, pour éviter que le vin ne prenne une oxydation. Mais néanmoins, il y a des petites astuces comme ça qui permettent de ne pas avoir de regrets à déboucher un ou deux flacons pour essayer d'avoir cette notion de plaisir. Mais ne jamais, pour moi, occulter la notion de plaisir par rapport à cette volonté ou alors cette quête de vouloir faire l'accord parfait.
Un vin, une bouteille.
Que tu as eu du mal à servir.
Que tu as eu du mal à servir.
Ça peut être des... Dans des très grandes eaux de vie, mettre effectivement de la glace ou alors du Coca-Cola ou alors mettre de l'eau gazeuse. Moi, j'ai jamais connu de glace dans les grands vins de mon vivant, hein, si je puis dire, de ma carrière professionnelle. J'ai jamais connu cette demande assez loufoque sur des grands vins rouges ou des grands vins blancs de mettre de la glace et tout. Non, moi, j'ai jamais connu ça. J'ai plus connu le fait de mettre de l'eau gazeuse dans certains grands vins pour atténuer un petit peu la puissance ou alors réduire le degré d'alcool. Alors, ça m'a fait sourire parce que moi, ça, c'est une pratique que j'ai connue avec mon grand-père. Le blanc limé en Vendée, nous, on sait ce que c'est. Ce vin blanc incisif, un peu acide, un peu vert, qui était consommé dans les campagnes et qui, sur le comptoir ou sur le coin du zinc, mon grand-père, après sa partie de cartes, avait ses collègues qui réclamaient un blanc limé. J'ai connu à la région bordelaise la Jacqueline, aussi le vin qui était coupé avec un petit peu de limonade, voilà. Donc autant j'ai eu ces demandes, mais j'ai rarement eu des demandes extrêmement loufoques concernant le vin.
Un vin, une bouteille.
Pour fêter un titre de meilleur sommelier.
Pour fêter un titre de meilleur sommelier.
J'ai bien bu, ça c'est sûr. Bon nombre de bouteilles. À la fin du meilleur sommet de France, la plupart du temps, c'est souvent du champagne. Il y a non seulement le côté festif, alors je dis meilleur sommet de France, mais les compétitions. Il y a souvent du champagne. Je suis vraiment un amoureux du champagne. Je trouve que c'est un vin, je dis bien vin, parce qu'au-delà de l'effervescence, il y a un vrai fond de vin, notion de terroir, provenance, climatologie, tout est réuni. Savoir-faire, la prise de mousse, l'élevage et ainsi de suite. Bon, tout est réuni pour que ça soit un très grand vin. Et donc, j'aime le champagne à la fin des compétitions, non seulement pour son aspect festif, que ce soit pour fêter une victoire ou pour que ce soit pour se dire « ça y est, waouh, la compétition est finie, j'ai sué beaucoup, je ne suis pas arrivé sur la plus haute marche du podium, mais néanmoins, je mérite un verre de champagne ». Et donc, la plupart du temps, sont des champagnes... Alors, je ne cherche pas pour l'aspect immédiat des champagnes millésimées ou alors les champagnes les plus denses, les plus construits ou alors les plus complexes, mais plutôt... cet esprit extra-brut, brute nature, des blancs de blanc, avec beaucoup en fait, de plaisir gustatif et surtout de rafraîchissement. Voilà. Donc, ça a souvent été quand même du champagne à l'issue des compétitions. Moi, la maison Roederer, pour les grandes maisons avec beaucoup de classicisme et surtout avec un niveau qualitatif qui est exemplaire, ça, c'est vrai que la maison Roederer, avec ne serait-ce que le brut, qui me permet surtout d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Des champagnes de vignerons aussi. J'apprécie beaucoup des champagnes plus orientées Pinot, par exemple, avec Jean-Baptiste Geoffroy sur Cumière. J'aime beaucoup aussi quelques champagnes blanc de blanc. Je pense aussi à Montcuit, que j'ai toujours suivi depuis mes débuts en fait, de sommelier à l'Arpège, où on avait du champagne Montcuit. Donc, cela peut être aussi bien une grande maison historique qu'un champagne de vigneron.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a piégé lors d'une dégustation à l'aveugle.
Qui t'a piégé lors d'une dégustation à l'aveugle.
Concernant les compétitions, j'ai été piégé maintes et maintes fois parce que ce que je voudrais quand même dire à toutes les personnes qui écoutent mes propos, c'est que c'est plutôt rare quand on découvre le vin que nous avons en dégustation à l'aveugle en compétition. Alors, je peux surprendre en disant ça, mais c'est que nous sommes très entraînés. Nous ne ménageons pas notre peine pour pouvoir justement essayer de goûter un maximum de vin. Néanmoins, la diversité des vins est telle sur la planète que ce n'est pas si évident que ça de pouvoir justement reconnaître les vins. Donc, nous essayons, façon entonnoir, de par notre mémoire olfactive, gustative, et notre mémoire faisant référence par exemple aux couleurs, au vieillissement des vins, de se dire... J'élimine, en fait, ça. C'est une phase d'élimination au fur et à mesure de la dégustation à l'aveugle pour essayer d'arriver à la fin de l'entonnoir où l'espace est si petit que peut-être on va tomber à quelques kilomètres, je dirais, près, peut-être quelques mètres près, ou alors, chose quand même très rare, tomber exactement sur la reconnaissance du vin. Donc ça, c'est plutôt assez rare. Ça m'est arrivé en compétition internationale une seule fois où j'ai failli dire le nom du domaine parce que j'avais reconnu le domaine. Quelques semaines auparavant, j'étais dans ce pays, c'était en Autriche, avec la Varau. Et c'était un vin de chez Hitzberger. Et j'étais quasi sûr que c'était un Grüner Veltliner de chez Hitzberger. Je n'ai pas dit le domaine parce que pour moi, ça faisait toujours un peu trop présomptueux de donner le nom du domaine. Mais par contre, j'ai scoré mais impeccablement bien avec cette dégustation parce que j'étais exactement sur le cépage et le terroir. Et le vin qui m'a, dans mes compétitions, et j'en garde un très joli souvenir, mais ça m'a vraiment torturé l'esprit. C'est un vin que j'ai eu au meilleur sommelier d'Europe en 2010 à Strasbourg, en finale, sur scène. Le vin était sombre, très sombre. On n'y voyait pas au travers. Une couleur, mais violacée, voilà, c'était pire que la couleur, je dirais, cardinale, tellement le violet, en fait, s'imprégnait sur le gras du vin, sur les parois du vin. Je mets le nez dessus, donc déjà, sur le plan visuel, la viscosité était telle, je dis, mais bon sang, le cépage déjà est très noir. Donc, quand on dit cépage noir, la plupart du temps, c'est quand même climat ensoleillé. Ensuite, je voyais la viscosité dans le verre. Le gras s'installait de façon durable sur la paroi du verre. Et en plus, le gras était mais quasiment violet aussi. Et puis, le vin mettait du temps à se couler sur la paroi du verre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je mets le nez dessus, ça sentait la crème de cassis. Ça sentait la crème de cassis, ni plus ni moins. Une concentration, en fait, de la baie de cassis avec du sucre. Mais alors, la crème de cassis que fait mon père en faisant maturer, en fait, ces grains de cassis dans les bocaux en plein soleil pour vraiment les faire mûrir. Et après, il saupoudre de sucre. Et moi, c'était cette odeur. Cette odeur familiale de la crème de cassis. Je goûte. Effectivement, sucrosité, densité, puissance, de l'alcool, mais pas un alcool rajouté. J'ai compris que c'était, en fait, un vin où l'alcool était naturel. Et puis, alors, une structure tannique extrêmement puissante. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce vin? Mais qu'est-ce que c'est que ce vin? Et là, très sincèrement, je n'ai pas pu donner une réponse. Mais au final, j'ai dit une liqueur de fruits et j'ai dit crème de cassis. Mais sans du tout être sûr que ça pouvait être ça. Parce qu'il y avait des éléments gustatifs qui ne correspondaient pas à la crème de cassis. Et en fait, c'était un vin à base de tanate d'Uruguay. Donc en fait, un vin surmûri, concentré et avec une limite de passerillage élaborée par un domaine en Uruguay. Parce que l'Uruguay est un vignoble très reconnu pour le tanate, qui s'est implanté là-bas avec eh bien, des visiteurs du Pays Basque, entre autres. Et donc, voilà, j'ai été bluffé ce jour-là parce que ça m'a énormément posé de questions en me disant « mais c'est pas de la crème de cassis et pourtant on dirait de la crème de cassis ».
Un vin, une bouteille.
Que tu as découvert récemment.
Que tu as découvert récemment.
Récemment, j'ai regoûté en fait un vin d'Assyrtiko de l'île de Santorin, un vignoble dans lequel je suis allé. Et pourquoi en fait ça m'a encore voilà, ému, c'est parce que l'histoire par exemple du monde viticole sur la Grèce, ben, il est bien antérieur par rapport à l'histoire viticole en France. Comme je dis toujours, moi je pense que les philosophes grecs, en fait ils philosophaient, mais en plus la plupart allaient philosopher sur les îles. Et moi, je suis quasi sûr qu'il y avait des coups à boire avec les philosophes et qu'ils philosophaient très, très bien quand ils avaient un petit verre ou deux verres voilà, de consommer. Et ce cépage, en fait, me fascine toujours parce qu'il est multifacette et surtout, il est sur un terroir mais qui est incroyablement étonnant. C'est le terroir du volcanisme, c'est une caldeira Santorin, c'est un volcan qui s'est affaissé, qui s'est effondré. Et il y a une multitude en fait, de cailloux, de la pierre ponce, de la pierre volcanique noire. Mais c'est très, très, très divers et varié. C'est une vraie mosaïque. On a l'impression, même sur certaines zones, qu'on a l'impression de voir des mosaïques en fait, gréco-romaines de composition au sol, ne serait-ce que simplement composées avec ces petits cailloux. Et pourquoi je pense à l'Assyrtiko? Parce que c'est l'histoire du vignoble grec, mais c'est l'une des histoires du vignoble grec. Mais c'est surtout que en fait, ce cépage, au fur et à mesure que je le déguste, je comprends que c'est un cépage qui est une carte d'identité extrêmement fiable de ce que peut représenter en fait, l'histoire du monde viticole, une partie de l'histoire du monde viticole. Il y a deux domaines que j'affectionne quand même beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup Sigalas, j'aime beaucoup Adidakis. Il faut avouer qu'il y a quelques domaines sur Santorin que j'affectionne beaucoup. Et je vends très régulièrement des vins de Grèce. Et je suis très étonné avec la facilité déconcertante que l'on peut parfois avoir pour proposer des vins grecs dans notre salle de restaurant, avec un vrai intérêt de la clientèle.
Un vin, une bouteille.
Quand des amis débarquent pour l'apéritif.
Quand des amis débarquent pour l'apéritif.
Pour rester dans la simplicité, quand les amis débarquent, des fois à l'improviste, ça peut arriver, parce qu'il faut toujours un conseil. Moi, j'ai toujours une bouteille de vin effervescent, une bouteille de vin blanc dans le frigo. Un vin effervescent, que ce soit champagne, que ce soit effervescent de la Loire avec Vouvray, Mont-Louis, ou que ce soit même des créments. J'affectionne beaucoup le crément d'Alsace aussi. Et donc, j'ai toujours cette mise en place, si je puis dire. Ça, c'est professionnel. C'est dans les gènes d'avoir une mise en place, d'avoir un vin effervescent, quel qu'il soit, et un vin blanc au frais, déjà tout prêt.
Un vin, une bouteille.
À ouvrir pour le plaisir.
À ouvrir pour le plaisir.
En Gamay, moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Jean-Marc Burgot sur Morgon, sur Côte de Pie. Ça fait partie, moi, de mes références sur la zone du Beaujolais. Mais j'affectionne aussi beaucoup, on en parlait tout à l'heure, des pinots noirs. Et j'aime bien, moi, les pinots noirs qu'on peut trouver sur le Centre-Loire avec les Mentoussalon. Et il y a vraiment des pinots noirs très fringants. J'aime beaucoup aussi quand c'est vinifié de façon très aérienne et surtout très délicate le Cabernet Franc de la Loire. Je pense en l'occurrence aux Anjou et aux Saumur qui peuvent être des vins rouges de grande garde avec beaucoup de classe, de distinction. Mes racines étant vendéenne, moi le Cabernet Franc, j'ai toujours connu comme le chenin. Donc j'aime beaucoup aussi des fois ce travail du Cabernet Franc très acidulé, très gourmand, très juteux, très baignoire, fraîche, mais sans la dureté de tanin parfois qu'on peut retrouver. Donc tout ça dans la simplicité. C'est vrai, n'oublions pas aussi parfois des vins aussi très accessibles, mais qui font appel au bassin méditerranéen. Je ne déroge pas, moi, à la règle concernant mon amour de tout type de vin. Et que ça m'arrive de consommer des vins rosés avec beaucoup de délectation. Et je pense en l'occurrence des vins sur la Londe ou alors sur les coteaux varois qui nous donnent des vins rosés mais extrêmement distingués, bien vinifiés, qui sont pas, vous savez, dans des arômes fermentaires trop travaillés sur un trop gros travail, vous savez, de vinification. Alors qu'on peut faire des vins rosés de soif, de fruits, de plaisir, très gourmands, très goulayants, sans se dire oui mais le vin rosé c'est pas un vin. Je suis pas d'accord. Moi le vin rosé fait partie des galaxies des vins.
Un vin. Une bouteille.
À déboucher pour une occasion exceptionnelle.
À déboucher pour une occasion exceptionnelle.
Pour une occasion exceptionnelle, c'est forcément une bouteille, la plupart du temps exceptionnelle. Alors, ça peut pas être régulier, très sincèrement, mais cela peut être un très grand chardonnay de Bourgogne, en allant sur les grands crus, parce que je suis fan quand même du chardonnay de Bourgogne. Pourquoi je dis quand même ? Parce que beaucoup diront que le chardonnay, il y en a aussi des très grands dans d'autres pays. Mais néanmoins, moi, j'ai pu faire des dégustations comparatives avec des grandes régions productrices de chardonnay autres que la Bourgogne, en dehors de nos frontières, si je puis dire. Il faut quand même avouer qu'on revient très régulièrement sur la qualité et le potentiel de vieillissement et la distinction des chardonnays sur la Bourgogne. Donc, j'aime bien, pour des occasions exceptionnelles, me faire plaisir avec un grand cru sur la Bourgogne, sur la côte de Beaune. Et pourquoi j'aime beaucoup le chardonnay bourguignon, c'est parce que on peut le servir souvent à une température qui est de l'ordre, vous savez, de 15-16 degrés. On flirte avec certaines températures de service des vins rouges frais, par exemple, où on est plutôt dans l'ordre de 18 degrés ou 16-18 degrés. Mais néanmoins, la dimension de ces grands chardonnays bourguignons est parfois une dimension qui est décuplée par la température de service.
Un vin, une bouteille.
À partager avec Thierry Marx.
À partager avec Thierry Marx.
Je trinque avec Thierry Marx, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Si je trinque avec lui, je débouche une bouteille de saké. Parce qu'il adore le saké, tout comme moi. Il connaît très bien le saké. Et il a une image très juste du saké. C'est que quand il fait de temps à autre des retraites pour faire quelques cours de kendo, parce que non seulement c'est un judoka, mais c'est un kendoïste. Et donc mon chef, je m'attaque pas à mon chef, hein, vous imaginez bien, hein, parce que entre le judo et le kendo, vous savez, prendre une prise de judo ou alors prendre un coup de sabre du kendo, non, je plaisante parce que c'est un chef maintenant avec lequel je collabore depuis 10 ans. J'apprécie beaucoup cette collaboration. C'est un chef, moi, qui est en train de me marquer dans ma carrière professionnelle. Mais je partage avec lui une bouteille de saké parce que je sais que la bouteille de saké, on la finira tous les deux. Et j'en viens à cette image, c'est que quand lui pense à l'ambiance japonaise, les forêts. Le Japon est un pays avec beaucoup d'eau. Et lui, il assimile en fait la qualité des grands sakés à l'eau de source en fait qui coule et ce pouvoir rafraîchissant que le saké peut avoir au même titre qu'une eau de source qui jaillit en fait des montagnes japonaises. Et quand on va dans les provinces les plus reculées où il y a des productions donc de saké avec les rizières bien évidemment, mais surtout les sources très pures parce qu'il y a une recherche de sources très pures, comme fut un temps les producteurs de whisky quand ils se sont orientés vers la vallée du Speyside, c'est qu'ils cherchaient des sources les plus pures possibles. Pour élaborer un produit le plus pur possible. Et donc, j'aime beaucoup partager un verre de saké avec lui parce qu'il affectionne beaucoup cela. Et c'est surtout pour lui un vrai moment de partage et un partage très sobre, très solennel, très discret, très fin, comme la culture à la japonaise. Donc oui, je veux bien, et ça m'est déjà arrivé, hein, mais je veux bien continuer à partager une bouteille de saké avec Thierry Marx.
Un vin, une bouteille.
Pour remplacer le vin.
Pour remplacer le vin.
Comme le dit si bien Xavier Tuisat, mon copain sommelier, qui excelle au niveau du saké, là où le vin commence un peu à peiner au niveau de certains accords avec certains plats, on pense entre autres aux légumes fermentés par exemple, à l'artichaut, eh bien le saké y trouve sa place. C'est pour ça qu'on dit que le saké est un parfait complément du vin sur les accords. Et puis, autre aspect concernant le saké, c'est assez étonnant parce que on est à peu près sur les très très jolis sakés, à peu près entre 14 et 16 degrés d'alcool. Donc ça reste, pour la plupart des autres vins, quand même 2 degrés de plus, la plupart du temps, ou 2 degrés et demi de plus. Néanmoins, vous avez une digestibilité avec le saké qui est incroyable.
Un vin, une bouteille.
La dernière que tu aies bu.
La dernière que tu aies bu.
La dernière bouteille que j'ai bu, eh bien, c'est un millésime tout jeune. Parce que c'est un copain vigneron, Thierry Germain, qui est venu à la maison. Et il nous a amené sa série de 2019. C'est tout frais, c'est vrai. Mais il y a un vin dans sa série et dans son, je dirais, son panel d'excellents vins, qui est un vin incroyable, qui s'appelle Franc de Pied. Donc en fait, c'est une parcelle qui n'est pas issue de vignes greffées. Ce sont des vignes qui sont plantées sur un sol où le phylloxéra, ce petit puceron qui nous cause moult tracas en grignotant les racines et en tuant au fur et à mesure nos cèpes, eh bien là, cette parcelle, elle est franche de pied, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été greffée sur des porte-greffes d'origine américaine. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, plus de papier buvard entre ce que représente le cépage et le terroir. On n'a pas de filtre, si je puis dire, si je peux imager le pied greffé. Et donc, ça peut être étonnant de dire que voilà, mon joli souvenir, là, dernièrement, c'est un 2019. Mais c'est pourquoi ? C'est parce que ce 2019, mais du fruit, du fruit, du fruit. La couleur, c'était comme voilà, une ponction d'un peu de notre sang. C'était un violet, mais opaque, très dense. Couleur, mais d'une jeunesse incroyable. C'était très jovial, mais très plaisant. Ne serait-ce que voir la couleur. Ce violet-là, on a l'impression d'avoir voilà, de l'encre violette qui sort de l'encrier. On s'en en mettait sur les bouts de doigts ou même sur les lèvres et c'était coloré. Mais un fruit, mais exubérant, très intense. Et surtout, la texture en bouche de ces francs de pied.
Si vous aussi vous cherchez à acheter une bouteille,
à emporter sur une île déserte,
qui a de la personnalité,
venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
dont vous serez fiers,
à déguster à la bonne franquette.
Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous, rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. Lepetitballon.com, les vins sans baratin.